Sandrine Saroche, que vous retrouvez donc à la fois le 12 novembre au Palais des Glaces avec toute notre équipe pour le Radio J Comedy Club et sur scène, sur la scène du Théâtre des Mathurins pour son nouveau One Woman Show à découvrir dès le 23 janvier 2025. À tout de suite, et là, c'est le journal.
Très bon après-midi à l'écoute de Radio J, à suivre un nouveau journal signé Tanit Belaïch.
Tous à la une de l'actualité, le premier ministre israélien s'est rendu à la Knesset pour voter le projet de loi sur la taxation des bénéfices non distribués. Moins de 48 heures après avoir subi une opération de la prostate, Benjamin Netanyahou a quitté l'hôpital en fin de matinée contre l'avis de ses médecins pour soutenir le ministre des Finances Bezalel Smotrich qui l'appelait ce matin à prendre ses responsabilités. Objectif pour lui, éviter une division du gouvernement et une perte de la majorité à la Knesset. Les partis d'extrême droite Otzma Yehoudite et ultra-orthodoxe à Agudat Israël menaçaient de s'opposer à la loi sur les bénéfices non distribués réinvestis dans les entreprises. Jusqu'ici exonérés d'impôts, le ministère souhaite taxer ses profits. Daniel Haïk.
Les partis ultra-orthodoxes exercent une pression sur le gouvernement israélien pour qu'il présente immédiatement un texte de la loi sur la conscription des étudiants en yeshiva avant l'approbation du budget. Ils menacent de ne pas soutenir le budget si leurs exigences ne sont pas satisfaites. Et puis le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, cherche lui à régler un autre conflit, celui avec Itamar Ben-Gvir, pour éviter de devoir accorder des fonds supplémentaires au ministre de la Sécurité nationale. Une situation donc très complexe qui met la stabilité du gouvernement en danger.
Notre correspondant en Israël, Daniel Haïk, a noté que Benjamin Netanyahou va retourner à l'hôpital. Sur le terrain, Tzahal annonce le départ de la brigade Nahal de Rafah. Déployée fin mai dans la localité du sud de la bande de Gaza, la brigade a pu localiser et détruire de nombreuses infrastructures utilisées par le Hamas à des fins terroristes, notamment des tunnels, selon le bilan de Tzahal présenté hier. Au lendemain d'une attaque houthie contre l'État hébreu, de nouveaux débris de missiles utilisés par les rebelles yéménites ont été retrouvés à Beit Shemesh, dans le district de Jérusalem. Des débris retrouvés sur le balcon d'une maison. Des morceaux du missile ont atterri à au moins trois endroits dans cette ville. Le projectile a été intercepté dans la soirée avant qu'il ne pénètre dans l'espace aérien israélien. À Harish, plusieurs véhicules ont été endommagés par les fragments. Et puis, à Yavne, une jeune femme de 18 ans a été légèrement blessée après avoir été heurtée par un véhicule alors qu'elle cherchait à rejoindre un abri. C'est dans ce contexte de recrudescence des attaques houthies que les rebelles soutenus par l'Iran ont promis des surprises à Israël. L'armée française a frappé des positions de Daesh en Syrie, annonce Sébastien Lecornu, le ministre français des armées. Ces frappes opérées avant-hier s'inscrivent dans le cadre de l'engagement continu de la France dans la lutte contre le terrorisme au Levant, a assuré Sébastien Lecornu sur le réseau social X. Au total, 7 bombes ont été larguées contre 2 cibles distinctes. Les ministres des armées et des affaires étrangères Sébastien Lecornu et Jean-Noël Barrot sont actuellement en déplacement au Liban afin notamment de fêter le réveillon du nouvel an avec les militaires français de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, dans le camp de Deir Kiffa. Après une journée passée à Mayotte, le premier ministre français est en déplacement à La Réunion. François Bayrou achève aujourd'hui sur l'île de l'océan Indien son déplacement consacré au cyclone Chido qui a frappé Mayotte il y a un peu plus de 2 semaines. Hier, il a annoncé une batterie de mesures destinées au redressement de l'archipel. Le chef de l'exécutif a dit souhaiter la réconciliation, l'action et la stabilité pour l'année à venir. Emmanuel Macron, de son côté, va présenter à 20h ses vœux aux Français dans la traditionnelle allocution télévisée de la Saint-Sylvestre. Objectif, tourner la page d'une année marquée par une dissolution tourmentée de l'Assemblée nationale. C'était en juin. Dans le même temps, plus d'un million de personnes sont attendues dès 19h sur les Champs-Élysées pour les festivités de fin d'année. Au programme Feux d'artifice, concerts ou encore spectacle de cirque annonce la mairie de Paris. Les chanteurs Eddy de Préto, Lio, Franglish ou encore Jean-Louis Aubert se produiront gratuitement sur scène. Un moment d'attention soutenue pour le préfet de police de Paris, Laurent Nunez.
C'est pas forcément l'événement, le moment le plus stressant de l'année. On sort des Jeux Olympiques, de l'inauguration de Notre-Dame, mais c'est un moment d'attention très soutenue pour les forces de l'ordre, parce que traditionnellement, donc dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, on peut avoir des violences urbaines, on a un gros dispositif de sécurisation à remonter. On a 10 000 membres des forces de sécurité qui sont mobilisés entre les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, les militaires du dispositif Sentinelle et puis aussi les policiers municipaux, notamment à Paris, qui seront engagés sur la sécurisation du dispositif des festivités de ce soir.
Laurent Nunez ce matin au micro de nos confrères de RTL. La soirée qui sera diffusée en direct sur France 2 se clôturera par le traditionnel feu d'artifice du Nouvel An à minuit.
Radio J.
Bonjour.
Le 6-9, Hélène Aferradian.
Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J.
Radio J.
Radio J. 15h, 16h. Annabelle Show.
Nous sommes dans le Annabelle Show pour la dernière partie de cette émission avec Sandrine Saroche, qu'on aura le plaisir de retrouver à partir du 23 janvier 2025 dans son nouveau One Woman Show au Théâtre des Mathurins, avec plein de nouveautés, des nouveaux personnages, des nouvelles chansons, toujours ce point de vue féminin, engagé aussi. Et on s'est quitté avant ce flash, avant ce journal, en parlant de vous, voilà, de ce qui vous caractérise. J'ai envie de savoir... Donc vous m'avez dit que si vous étiez une arme de séduction, vous seriez la bouche. Si vous étiez une qualité, ce serait quoi?
Le courage, c'est une qualité quand même.
Ah ouais, quand même. Ah bah ouais. Je crois bien. J'espère bien que c'en est une.
Ouais. Je pense que ça c'est quand même une vertu maîtresse, ouais.
Ouais. C'est vrai que pour être artiste et exprimer un point de vue, faut. Et puis voilà, pour se lancer dans le vide,
du
courage.
Ouais, c'est ça. Même pour monter sur scène, il faut avoir du courage. Et puis puis dans la vie de manière générale, c'est bien aussi d'avoir un petit peu de courage, de dire les choses qu'on a envie de dire, quand on a envie de les dire, de pas se laisser marcher sur les pieds, de faire valoir son opinion, de pas se laisser, d'avoir du courage.
C'est quelque chose, justement, dans ce parcours de femme humoriste. Est-ce que vous avez eu souvent besoin de faire preuve de ce courage pour vous manifester?
En permanence.
Ah oui.
En permanence. Ouais. Même si, comme nous tous, je pense qu'on avale tous notre lot de couleuvres. Mais oui, du courage, beaucoup de d'obstination, beaucoup de il faut pas se décourager, il faut garder l'espoir et voilà, comme dit le Talmud, c'est justement lorsqu'il n'y a plus d'espoir qu'il convient d'espérer. J'aime beaucoup cette phrase qui est comme un phare pour moi, en fait. Depuis que je l'ai découverte il y a quoi, une vingtaine d'années, elle m'accompagne très souvent, cette phrase. C'est justement lorsqu'il n'y a plus d'espoir qu'il convient d'espérer.
Alors justement, moi je vais rebondir sur cette phrase. Moi j'ai mon grand-père qui me disait un proverbe yiddish: tant que c'est pas bien noir, ça peut pas s'éclaircir. Donc ça correspond un petit peu à ce que vous dites, tourner avec l'humour yiddish. Cette fois-ci, si vous étiez un défaut.
Ah ben c'est le bordel.
Le bordel.
Ah ouais.
Le bordel.
Ouais, c'est ça. Comme le musée du même nom, c'est vraiment le bordel. C'est un truc que j'aimerais, si je pouvais simplement
une petite baguette magique.
Ah là là, comme dans Mary Poppins.
Ah, je vous verrais bien en Mary Poppins.
Ah, j'adore.
Ah, c'est un rôle qui vous irait mais parfaitement.
Ouais, je suis un petit peu âgée déjà, mais bon, avec les effets de la 3D du maquillage, pourquoi pas.
Vous parlez ça justement, va sortir là un film qui va réunir tout le casting de Forrest Gump, avec donc Tom Hanks et Robin Wright Penn. Et en fait, ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour leur donner tous
et
les
ben
âges.
Voilà.
Donc voilà, on va faire ça aussi. C'est extraordinaire.
Merci, Lia. Il faut bien que ça serve à quelque chose. Il faut qu'on utilise. Mais c'est ça, que les défauts et les inconvénients deviennent des qualités.
Voilà.
C'est ça,
ce serait pas mal,
en fait.
Effectivement.
C'est servir, voilà, de ce qui nous fait souffrir, et bien de les tourner à notre avantage.
Si vous étiez une émotion. Seriez guingoise?
Ouais, j'ai toujours. Ouais, c'est ça, guingoise. Je sais pas, ça fait des années que je relis la différence. J'essaie de comprendre la différence entre les émotions, les sentiments. Moi, je suis nulle. J'arrive pas à retenir ces trucs-là, je sais pas.
Ah, bah, l'un ou l'autre, peu importe.
Ouais, non, mais parce que sinon c'est l'amour, hein, évidemment.
Bon, bah, voilà, c'est bien ça.
Mais c'est pas vraiment une émotion, c'est un sentiment.
Voilà. L'attachement.
Je sais pas. Je sèche sur cette question.
Pas grave. Si vous étiez une chanson, puisque vous êtes un jukebox.
Qu'est-ce que si j'étais une chanson? Alors moi,
je suis le mal.
J'ai une chanson que j'adore, qui est la chanson de. De Souchon,
ouais.
Le baguette de Landby Way. J'adore cette chanson.
Le temps qu'on la retrouve en régie, mais on l'a. On peut écouter un tout. On l'a dès le début.
Allez, on a l'intro en fait. Tu la voyais pas comme ça ta vie? Ben oui, parce que ça peut s'appliquer à tellement, tellement, tellement de gens d'entre nous. Allez, vas-y Alain, c'est à toi.
Tu la voyais pas comme ça ta vie. Pas d'attaché caisse quand t'étais petit. Ton corps enfermé, costume crétin. T'imaginais pas, je sais bien. Moi aussi, j'en ai rêvé des rêves, tant pis. Tu la voyais grande et c'est une toute petite vie. Tu la voyais pas comme ça l'histoire. Toi t'étais tempête et rocher noir. Mais qui t'a cassé ta boule de cristal? Envie rendue banale. Tes moches en moustache, en LED sandales. Tes cloches en bancal, petit caporal.
Alors,
commercial.
On pourrait chialer là.
Ah ouais, là, ouais. Là, il y a un petit flashback pour tout le monde. Là, on est tous en train de faire le point sur nos vies là.
Qu'on a fait.
Crise de dépression. Mais c'est vrai que ça parle à tout le monde. Bah oui, on a tous des moments comme ça où on se pose et on fait le point, quoi.
Est-ce que je la voyais comme ça ma vie? En même temps, parfois, c'est parfois mieux que ce qu'on voyait.
Mais d'ailleurs, c'est important des fois, justement, de pas s'arrêter à un point précis et de voir le chemin. De voir le tout. Non, mais c'est vrai que souvent, et derrière, dans les carrières artistiques,
la vie, c'est pas s'arrêter à un instant T. Ouais. C'est à la fin que ça se,
c'est tout le chemin qui compte.
Et tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin, c'est comme au foot, hein.
Effectivement.
C'est ça, le match n'est pas fini. Donc, il faut continuer, il faut croire toujours, en ses rêves, il faut continuer, il faut essayer d'être le mieux possible. Et souvent, c'est possible, on croit que c'est pas possible, mais souvent, c'est possible en fait.
Mm-hmm.
Ouais.
D'ailleurs, c'est vrai que cette chanson, elle est assez caractéristique parce qu'aussi, même vous avez eu une première vie professionnelle, mm-hmm, et soudain, vous êtes dit ça que je la voyais ma vie, et on va partir
possible,
sur autre chose.
Continuer avec mes dossiers que j'essaye d'enterrer pour pas les traiter.
Surtout
pas...
pour quelqu'un de bordélique, c'est galère, non, de travailler dans le droit, j'imagine.
C'était horrible.
Avec des arrêts, des documents, des dossiers.
Les horaires, les machins, les trucs administratifs, enfin, tout ce que je déteste. En fait, c'est ça, j'étais pas faite pour ça. Il y a des gens qui sont faits pour ça.
Effectivement.
Il y a des gens qui sont faits pour l'organisation, qui sont, j'ai des amis qui sont faits pour ça. Ouais. On organise quelque chose.
Il y a des génies administratifs.
Ils sont là.
Ils
passent des coups de fil, ils adorent ça. Mais moi, ne serait-ce que passer un coup de fil, parfois, ça peut me prendre des jours et des jours.
Juste pour le réfléchir.
Ouais, j'ai pas envie. En fait, c'est pas mon truc. Donc, il faut faire ce pour quoi on est fait. Très
important. Retenez bien, parce que c'est vraiment le message de cette émission. Effectivement. Donc cette chanson. Alors, j'en profite pour faire un petit crochet, parce que effectivement, vous êtes une grande, grande fan d'Alain Souchon et qui effectivement est un auteur de court-métrage en chanson, hein.
Ouais.
Et donc vous avez allez, si je vous mets cette chanson là, vous allez me raconter un truc, j'en suis sûr.
Je chante un baiser. Je chante un baiser osé.
C'est pas une expérience de baiser, ouais, avec Alain Souchon.
Ah, mais oui, c'est vrai, vous êtes plus. Justement, j'ai eu la chance de faire une chronique quand j'étais sur une autre radio que celle que la vôtre, avec Alain Souchon, et j'ai fait un portrait d'Alain Souchon. Et effectivement, j'étais en train de ranger mes affaires là comme ça à la fin de l'émission, et je sens un petit truc tout doux sur ma joue comme ça. Il m'avait fait un petit baiser comme ça sur. Pour dire au revoir.
Pour vous dire merci, j'imagine.
Pour dire merci, cette chronique. Pour dire au revoir, c'était vraiment
extraordinaire.
Moi, je voudrais qu'il soit immortel et j'adore. Je suis allée le voir plusieurs fois en concert et c'est ce que j'adore en fait quand je veux voir quelqu'un en concert. J'ai eu la même chose avec Charles Bois il y a pas longtemps. C'est rester dans le concert pendant pendant des jours et des jours, une semaine, on a les chansons qui reviennent.
Se plonger dans cette émotion-là.
Et quand on me dit ça à propos de mes spectacles, c'est le plus beau compliment. Quoi. Quand on me dit, en fait, tiens, j'ai pensé à toi ce matin parce que j'ai pensé à tel sketch. Ouais. Ça, je me dis.
Non, je sais pas si ça vous le fait. Des fois, des gens, ils vous redisent des répliques.
Bien sûr.
Et vous-même, vous dites, mais c'est quoi? Ah, c'est moi. Ah oui,
c'est
pardon.
C'est marrant. C'est toujours très émouvant.
Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous fait fuir chez les autres?
Alors, bon, si j'aime le courage, effectivement, ce qui me fait fuir, ça peut être la lâcheté. Et c'est vrai que j'ai remarqué ça souvent, chez des gens, je pensais qu'ils étaient des amis. Donc, j'aime pas la petitesse, la lâcheté, la mesquinerie. Moi, j'aime bien ce qui est franc.
Entier.
Ce qui est entier, ça veut pas dire qu'on peut tout dire et n'importe comment. J'aime beaucoup la délicatesse. Ça, c'est une vertu aussi cardinale. Je le mettrais au même niveau que le courage, la délicatesse. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est marrant. C'est une qualité qui est dans le serment de l'avocat, la délicatesse. Voilà. C'est très
c'est
important.
Joli. C'est vrai.
C'est très
qui peut beaucoup servir dans l'humour, la délicatesse.
Oui, et parce que la finesse aussi, c'est quelque chose de très important. Donc voilà, la lourdeur, l'indélicatesse, et puis la couardise, c'est ça qui me fait fuir chez les gens.
Et par contre, qu'est-ce qui vous fait fondre?
Ce qui me fait fondre, c'est l'authenticité, la gentillesse, la vraie gentillesse, la vraie douceur, l'intelligence. Évidemment, et le charme, un sourire. Je pense que je suis pas très originale en disant ça, mais peu importe. En fait, c'est ce qui me touche, les qualités du cœur avant. Et puis les qualités évidemment intellectuelles. Donc j'aime les gens intelligents.
Effectivement, ça peut être pas mal, les gens intelligents, ça peut aider. J'ai envie d'écouter un petit son parce que on va revenir quelques secondes sur vos références à vous. D'ailleurs, vous avez des références humoristiques qui vous ont un peu marqué comme ça, et on parlait de ça, de la finesse, de la délicatesse. Qui sont vos références que vous avez aimées? Donc vous avez parlé de Luluron à l'époque, mais
Et puis il y avait une femme qui avait été aussi avocate, il y avait Sylvie Joly.
Ouais, c'est marrant ce parallèle avec vous.
Ouais, surtout que je l'ai rencontrée un petit peu de temps, peu de temps avant qu'elle nous quitte. Sylvie, ça a été vraiment quelque chose d'important dans mon adolescence, parce que on apprenait ses sketchs par cœur et puis on les refaisait. Et donc c'est une source d'inspiration très très fort. Ouais.
Je crois que vous aimez bien Bénureau aussi.
J'aime bien Bénureau.
D'ailleurs,
je crois qu'il passe bientôt.
Oui, il passe déjà. Moi, je l'ai reçu. Il faut aller le voir au studio des Champs-Élysées. C'est un vrai bijou, vraiment, à le voir. On profite pour lui faire un petit coup.
Ah, bah oui.
Il y a un humour aussi anglo-saxon que vous aimez bien. Si je vous fais écouter ce petit son.
Ça a été une découverte. Je connaissais pas, et c'est une amie qui m'avait parlé de ça il y a 4-5 ans, je sais plus. Enfin bon, et du coup j'avais tout regardé, alors que je regarde vraiment. Moi, je regarde pas les séries, je regarde pas la télé, j'écoute pas grand chose. J'essaye de lire et puis surtout de voir des gens, et puis de temps en temps je suis aussi moi-même sur scène. Mais donc je suis pas du tout. Téléphage et ni sérivore, mais Larry David, ça a été moi c'est l'humour que j'aime.
C'est l'humour juif.
L'humour juif, Ah oui, c'est l'humour juif.
Justement.
Moi j'aime ça, moi l'autodérision et le sans filtre.
Si vous voulez une bonne tranche d'humour juif, on se retrouve le 12 novembre au Palais des Glaces. Juste pour terminer vraiment rapidement, j'aimerais que vous terminiez mes phrases. La clé du succès, c'est
C'est d'abord la clé du succès, c'est insister.
Ouais, le courage.
Ouais, c'est courage.
Du bonheur cette fois-ci, c'est quoi?
La clé du bonheur, c'est insister aussi.
C'est le courage aussi.
Ouais,
hein,
ouais.
C'est le courage hein, aussi.
Ouais, c'est être là, c'est compliqué. Moi, j'ai pas de recette. Je sais pas vraiment si je suis faite pour ça. J'essaye, en tout cas. J'essaye d'être heureuse le plus possible. Je sais que c'est bon pour la santé. Et, la clé du bonheur, je sais pas.
C'est d'essayer, en tout cas.
C'est d'être amoureux.
Ah, voilà.
Ouais, quand même. D'être amoureux le plus possible, ouais.
Amoureux de tout, de la vie aussi.
Amoureux de tout, de la vie, bien sûr.
Ouais.
De continuer malgré tout. Et même malgré les moments difficiles, et parfois on a envie de baisser les bras et on se dit mais c'est plus possible, je pourrais pas y arriver. Et s'il y a toujours en fait la petite fleur là qui pousse sur le fumier, il y a toujours
une pointe d'espoir. Comme le Talmud que vous avez dit. Merci infiniment Sandrine Saroche, c'est trop court, j'ai tellement de choses que j'ai envie de partager avec vous. On vous retrouve le 12 novembre pour le Radio J Comedy Club à partir du 23 janvier 2025 au Théâtre du Mathurin pour votre nouveau One Woman Show. Alors c'était comment?
C'était génial et le 12 ça va être merveilleux.
Voilà, on vous retrouve, merci infiniment et tout de suite le Club Imo Kiss Kiss.
Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Coldwell Banker, l'excellence immobilière.
Radio J.
Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo Radio J. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Richard Tsipine. Il est directeur général de Barnes pour analyser le marché immobilier haut de gamme en France. Bonjour Richard.
Bonjour Marc.
Et merci d'être avec nous. Richard, le marché immobilier résidentiel haut de gamme semble avoir mieux résisté que d'autres segments. Comment on explique cette résilience malgré les turbulences économiques qu'on peut connaître ?
C'est assez simple. En réalité, ce qu'on a vécu depuis 3-4 ans est une période absolument incroyable, inédite, et on ne la revivra sans doute pas avant longtemps parce qu'on a vécu à la fois la crise Covid qui était exceptionnelle et derrière la guerre en Ukraine qui fait qu'en 3-4 mois, les taux d'intérêt sont passés de un peu moins de 1 à plus de 4,5. C'était déjà il y a un an et demi. Et ce qui a provoqué évidemment un problème pour les clients dans leur capacité d'emprunt. Et en l'occurrence, les segments qui ont le plus souffert sont ceux qui concernaient les clients le plus sensibles à ces taux d'intérêt. Chez nous, chez Barnes, on analyse trois segments. Le premier segment jusqu'à 1 million d'euros, le deuxième de 1 à 3, et le troisième au-dessus de 3. On considère qu'au-dessus de 3, on rentre dans le très haut de gamme. En dessous de 1 et au-dessus de 3, nous avons relativement maîtrisé la situation, puisque en dessous de 1 million, en général, ce sont des clients qui sont soit des seniors qui se rétrécissent, donc ils ont l'argent, soit des parents qui achètent pour leurs enfants, donc ils ont l'argent, donc, et des investisseurs éventuellement qui ont l'argent. Donc ils ne sont pas trop sensibles au taux d'intérêt. Au-dessus de 3 millions, ils ont de l'argent, ils ne sont pas sensibles au taux d'intérêt en tous les cas. Entre 1 et 3 millions, en réalité, ce sont des gens qui gagnent très bien leur vie, mais qui sont dans leur cycle de vie autour de la quarantaine. Ils ont des enfants en bas âge. Et ce sont sans doute ceux qui ont le plus de dépenses à réaliser. Et donc, eux sont très sensibles au taux d'intérêt. Et donc, en réalité, on peut appeler ça le marché haut de gamme, puisqu'on est quand même entre 1 et 3 millions, ce sont des sommes très importantes. Sur ce segment-là, en 2023, nous avons baissé de 20% à peu près l'activité. Et c'est ce qui fait que l'immobilier, le marché immobilier, a été atteint sur le haut de gamme. Mais au-dessus de 3 millions, globalement, c'est sans doute, je rejoins là votre question, au-dessus de 3 millions, on est sur le très haut de gamme et on n'a pas été abîmé. Et donc, ça a toujours bien marché. Et je dirais même qu'il y a de plus en plus de clients qui ont une grande fortune dans le monde. Et Paris étant un des endroits les plus recherchés par cette clientèle, on n'a pas souffert vraiment de cette situation compliquée.
On observe aussi une différence entre les biens en parfait état et ceux qui nécessitent des travaux. Pourquoi cette tendance, elle est renforcée depuis le début de l'année ?
Alors, il y a deux raisons. La première, c'est qu'avec la guerre en Ukraine, il y a eu une inflation pour ce qui concerne les prix des matières premières et donc, en l'occurrence, pour les travaux. Donc, les gens, autant avant la guerre, préféraient des appartements à refaire parce qu'ils pouvaient les refaire leur goût et c'était formidable. Autant après, et donc avec cette inflation des prix, le coût des travaux était trop important, donc ils ont négligé, on va dire, ce segment de biens à refaire. Et puis, c'est vrai qu'on a dans la clientèle très haut de gamme pas mal d'étrangers. Les étrangers rechignent à faire les travaux dans la mesure où ils sont quand même éloignés du bien qu'ils achètent. Ils préfèrent que le bien soit clé en main, comme on dit.
Richard, certaines villes comme Deauville et Marseille semblent mieux résister que d'autres grandes métropoles. Comment vous expliquez cette stabilité relative des prix dans ces zones ?
Vous faites bien votre travail parce que c'est vrai tout ça. Alors comment je l'explique, je ne sais pas. J'essaye d'analyser. Ce qui est sûr, c'est que Deauville a beaucoup bénéficié de ce concept de résidence semi-principale qui est apparu avec l'après-Covid. C'est-à-dire que les gens se sont dit, maintenant on veut des maisons avec jardin, des espaces extérieurs, on veut vivre, on veut respirer, on veut du vert. Et que pour ceux qui ont un certain pouvoir d'achat, Deauville est l'une des stations les plus proches de Paris. Donc ça, il y a eu un engouement pour cette région qui ne s'est pas démenti depuis, parce que ceux qui ont été capables de partir pour télétravailler, on va dire dans des conditions très agréables, ils sont restés pour une bonne partie d'entre eux. Donc les prix n'ont pas baissé, contrairement à beaucoup d'autres endroits en France. Pour ce qui concerne Marseille, j'ai moins d'explications. Je ne sais pas exactement, mais c'est vrai que Marseille est une ville qui se comporte très bien pour l'instant.
Pour Paris, d'ailleurs, il n'y a pas pour les Parisiens, il n'y a pas que la Normandie. Hein. Je crois qu'il y a aussi la baie de Somme qui a bien progressé et la Côte d'Opale. On va marquer une petite pause, le temps de découvrir l'info du jour.
L'info du jour vous est présentée avec le concours du site meilleurbien.pro, la solution digitale pour les professionnels de l'immobilier. meilleurbien.pro.
Et dans un sondage, on apprend que près de 3 Français sur 4 soutiennent un report de l'interdiction de louer des passoires thermiques. C'est un sondage OpinionWay pour Texial. Pourtant, ceux qui se lancent dans les travaux ne sont pas forcément motivés par la crainte de ne pas pouvoir relouer. Seulement 4% d'entre eux rénovent en vue de louer leur bien. En tête des motivations, on retrouve la réduction de la facture énergétique à 43% et l'amélioration du confort à 25%. Bref, l'immobilier vert, c'est pas encore pour tout de suite pour tout le monde.
L'info du jour vous a été présentée avec le concours du site meilleurbien.pro. Vous êtes un professionnel de l'immobilier à la recherche d'un réseau qui vous comprend ? Meilleurbien.pro vous offre un environnement innovant et équitable, conçu pour optimiser vos dépenses tout en maximisant vos profits. Rejoignez un réseau où votre expertise est valorisée, avec des outils modernes et un accompagnement sur mesure. Meilleurbien.pro.
Radio J.
Le Club Immo Radio J, Marc Ezrati.
On retrouve notre invité Richard Sipin, il est directeur général de Barnes. Richard, le marché parisien semble reprendre des couleurs, mais certains quartiers continuent de mieux résister que d'autres. Lesquels ?
Eh bien, j'avoue qu'on reprend de très belles couleurs depuis 2 mois uniquement. C'est pour octobre et novembre, parce que j'ai déjà toutes les promesses qui seront signées en novembre, nous les connaissons déjà. Donc le marché reprend de très très belles couleurs depuis, on va dire, un mois et demi, 2 mois. Ça a été compliqué avant. La reprise a été très poussive et surtout, elle a été gelée par ce qui s'est passé en juin avec l'approche d'abord des JO. Parce qu'on savait bien que JO, Paris allait être un peu stoppé sur ces JO qui ont été finalement une magnifique réussite et qui ont attiré l'œil du monde entier de façon extrêmement positive sur Paris et sur la France. Et l'autre, c'est évidemment cette dissolution qui a inquiété beaucoup de nos clients et qui, finalement, pour l'instant, est plutôt rassurante avec la nomination de Michel Barnier. Donc, je dirais qu'il y a des endroits dans Paris qui se portent bien. En l'occurrence, je pense au Marais. Il suffit juste qu'il y ait une demande plus forte que l'offre pour que ça marche bien. Donc le Marais, il y a toujours une demande très forte. Neuilly-sur-Seine est une espèce de petit îlot paradisiaque, on va dire, qui n'est pas très connu des étrangers, mais qui est très connu par ceux qui y habitent et qui est très préservé. Il y a des très belles écoles, il y a beaucoup d'espaces verts, il y a des arbres dans tous les sens, les travaux sont réussis. Enfin bref, c'est un endroit qui est très demandé, qui n'a pas tellement souffert de la crise. Et puis, vous avez les beaux quartiers parisiens qui s'en sortent bien. En revanche, les quartiers dits populaires, un peu bobos, un peu voilà, qui ont beaucoup, beaucoup bénéficié avant Covid d'une augmentation des prix, sont obligés d'accepter que l'on revienne, on va dire, à la situation pré-Covid, c'est-à-dire avec une baisse de prix relativement significative, mais c'est en cours et les propriétaires finalement l'acceptent assez volontiers pour aboutir sur un projet.
Pour conclure notre entretien, quelles sont vos prévisions pour 2025 ?
Alors, je pense qu'il y a vraiment une idée forte aujourd'hui, c'est il faut acheter. La situation est devenue progressivement relativement saine. On a des taux d'intérêt qui approchent les 3%. Les prix ont baissé de l'ordre de 10% en un an et demi. Donc les prix sont bas, les taux sont bas. Il faut acheter aujourd'hui. C'est clairement dans les mois qui viennent, c'est le mot d'ordre.
Merci beaucoup, Richard Tipin, d'avoir fait le détour aujourd'hui par les studios de Radio J. Je vous retrouverai demain et je recevrai Michael Benchabat. Il est fondateur et président du réseau Meilleur Bien. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous.
Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de Imo Radio J.
Bonjour à tous, 16h30, 21h, c'est Radio Shalom. Toute l'équipe vous souhaite la bienvenue. La vie commence à 45 ans, une émission d'Isabelle Plançon.
Écoutez l'histoire de femmes et d'hommes qui ont décidé de prendre leur vie en main après 45 ans. Bonjour très chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'émission est consacrée à la résilience. J'ai choisi ce sujet car beaucoup d'entre nous sommes touchés par des accidents de la vie. Il nous arrive des événements qui nous touchent dans notre chair et qui changent le cours de nos vies à jamais. Rien qu'en France, près de 12 millions de personnes sont victimes d'un accident domestique chaque année et 15 millions d'accidents de la route. Suite à ces événements tragiques, beaucoup se retrouvent handicapés ou malades chroniques et doivent continuer leur vie avec une santé et une énergie défaillantes. Dans un monde où tout va toujours plus vite, plus fort, il faut être plus jeune, plus beau, nombreux sont ceux qui se sentent rejetés ou invisibilisés par la société. Alors, si c'est votre cas, ou celui d'un ami, ou d'un membre de votre famille, l'histoire de Valérie, qui est là aujourd'hui, et qui a subi un accident terrible de la vie il y a 17 ans, eh bien, cette histoire va vous redonner confiance, va vous redonner des objectifs. Cette histoire va vous inspirer, vous donner aussi l'envie de vous dépasser peut-être, quelle que soit votre condition physique. Je l'espère en tous les cas, vous encourager. Alors bonjour Valérie, je suis très honorée de t'avoir aujourd'hui dans mon émission. Je t'invite à te présenter.
Bonjour Isabelle et je te remercie. Alors donc je m'appelle Valérie, je suis maman de 3 garçons, 3 hommes maintenant, et mamie de 2 petites filles. Voilà, je vis dans le sud de la France.
D'accord.
Depuis 93 et avant ça, je vivais en Afrique du Sud.
Oui, alors tu as eu une vie très très remplie. On va pas tout raconter, mais tu pourrais écrire un livre de toutes les façons.
C'est vrai, oui. Peut-être à la retraite.
Alors, j'aimerais en fait malheureusement nous replonger il y a je crois 17 ans ou 19 ans.
Alors, il y a 19 ans, oui, 19 ans cette année.
D'accord, donc il y a 19 ans, tu as subi un événement dramatique. Tu peux nous le raconter ?
Alors, un truc tout bête, je préparais des frites. Et la poignée de ma friteuse a cédé. Et je me suis renversée l'huile sur mes jambes. Donc j'ai été prise en charge par les pompiers, l'hôpital, etc. Je suis arrivée avec des brûlures très graves sur la jambe gauche, moins graves sur la droite. Et suite à ça, j'ai eu de nombreuses opérations.
Combien d'opérations d'ailleurs ?
Alors le tout a duré 13 mois. Et j'ai eu 17 opérations.
C'est énorme. Lors d'une de ces opérations, tu as contracté un staphylocoque doré. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé sur ta jambe ?
Alors, j'avais une jambe qui ne guérissait pas, en fait, et d'où toutes les opérations de nettoyage, entre guillemets.
Oui.
Et du coup, moi, j'avais très confiance aux médecins parce que on est bien obligé de faire confiance aux personnes qui nous aident.
Bien sûr.
Et j'ai, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte qu'en fait, ma jambe ne guérissait pas et j'avais beaucoup de chair qui devenait noire, donc je gangrénais. Et c'est là que c'est parti. Et
tu as dû avoir très très peur.
Alors oui, là j'ai commencé à avoir moins confiance et là je me suis sentie pas du tout
soutenue
par tout ce qui était médical. Là maintenant j'avais peur.
Et à ce moment-là, tu as pris une décision, mais
terrible pour beaucoup de personnes, qui fait très très peur, c'est laquelle ?
Alors, de l'amputation.
Oui.
Alors ça fait peur aux gens, oui. Oui. Moi, je pense qu'à ce stade de ma vie, au bout de 13 mois, je n'avais plus peur de rien. Il fallait juste que il fallait survivre.
Oui, il fallait que tu te débarrasses aussi de...
Il fallait que je me débarrasse d'une jambe qui ne fonctionnait plus. Mm-hmm. Et qui ne ressemblait à plus rien. Voilà, parce que chaque opération, on m'enlevait de la peau, des muscles, des tendons, etc. Donc, c'était plus possible. Jamais on allait pouvoir reconstruire tout ça.
Alors bon, donc c'est une décision où tu arrives à l'hôpital, tu as pris la décision de l'amputation, et tu me dis que tu subis encore un autre stress énorme. C'est qu'en fait, on ne t'endort pas.
Alors
enfin,
le
complètement quoi, tu
le
pas de...
voilà le jour de l'amputation, j'arrive en salle d'opération et là l'anesthésiste me dit avec toutes les anesthésies générales que j'avais subies, il était impossible d'en faire une. Ce jour-là,
on t'a fait une péridurale alors que toi tu as très peur de la péridurale.
Très très peur. Alors du coup, j'ai pas eu le choix. On a fait la péridurale et puis, alors je me souviens de rien parce que j'avais beaucoup de médicaments. Donc je me souviens de rien. Tout ce que je me souviens, c'est en fait quand je me suis réveillée entre guillemets, j'étais donc amputée et je me sentais au top, vraiment bien débarrassée, une renaissance en fait qui a débuté de suite.
Ça veut dire que tu avais fait déjà le deuil de ta jambe pendant toute cette période de gangrène ?
Oui, parce que tous les jours, je voyais que alors mon état de la jambe, à mes yeux, se dégradait de jour en jour.
Oui.
J'avais cette gangrène, j'avais cette mauvaise odeur de viande pourrie,
on va dire
ce qu'il en est.
Il faut dire voilà. Les choses aussi.
Voilà.
Hein. Ouais.
Et aussi, je sentais que ma vie, elle partait. Et lors de ma dernière visite médicale, parce que ça a été tout un truc de trouver un chirurgien qui veuille bien prendre la suite de notre chirurgien pour m'amputer.
Ouais, ça, je sais ce que c'est, oui.
Voilà. Et là, ma vie, elle partait. Tout doucement. Et le chirurgien qui m'a pris en charge, il m'a dit que j'étais en septicémie. Donc, il ne me restait pas beaucoup de temps à vivre. Il m'avait parlé de 2 semaines à ce moment-là.
Donc, tu as pris la bonne décision. Mais malgré tout, quand tu te réveilles, tu es comme ça. Tu es une femme. Tu es en plus une très belle femme. Tu avais quel âge à ce moment-là ?
Alors, j'avais 50 ans.
Voilà. 50 ans.
50
Alors,
ans.
À 50 ans...
Non, 40 ans.
Ah oui, d'accord,
40,
parce que je me disais,
ouais.
Bon.
Je me suis rajeunie.
Oui, tu avais 40 ans, donc une belle femme, belle blonde aux yeux bleus, sportive, et d'un seul coup, on t'enlève la jambe. C'est pas que si tu avais été plus grosse ou
non,
que ce soit,
non,
ça soit
c'est sûr.
Moins compliqué, mais en fait, tu avais certainement l'habitude d'être regardée, et là, eh bien, en tant que femme, c'est quand même compliqué de se retrouver dans cette situation physique, non ?
Alors, le plus compliqué, c'était que pendant tous ces mois auparavant, j'avais perdu 18 kilos.
D'accord.
Et oui. Je ressemblais à une personne qui était anorexique, et pour moi, ça, c'était la pire des choses. Et du coup, le fait de me regarder dans un miroir toute nue après l'amputation... Mm-hmm. Bon, il me manquait une jambe, oui, mais tout ce que je voyais dans ce miroir, c'était ma maigreur. Et ça m'a rendu plus malade qu'autre chose. Et du coup, c'est tout bien déroulé.
Bon, voilà. Écoute, toi, t'es vraiment une warrior, hein, c'est le cas de le dire. Après, tu arrives à la maison, et normalement, tu dois aller dans une maison de repos, enfin, une maison de rééducation.
Alors,
un
oui.
Un centre de rééducation.
Oui, la normale, c'est qu'on sort de la clinique pour de suite intégrer un centre de rééducation.
Mais je sais pas ce que t'as fait.
Je n'ai pas voulu le faire parce que j'avais perdu 13 mois avec mes enfants.
Ah, t'es une vraie bonne maman,
jeune,
toi.
Qui étaient jeunes. Ouais. Et je me suis sentie d'abord les enfants, après moi. Voilà.
Voilà. Alors là, on a le sacrifice ultime. Tu es amputé et après, au lieu de t'occuper de toi, tu vas t'occuper de ta famille. Et ça dure pas un mois, 2 mois, 3 mois. Ça dure combien de temps cette histoire ?
Ça dure 10 ans.
Voilà. Pendant 10 ans, tu t'es occupé de tes enfants. T'as pas été en centre de rééducation.
Non.
Ça, c'est exemplaire. Donc, si vous êtes dans cette situation où vous n'avez rien fait, on va dire entre guillemets, que peut-être vous occupez de votre famille ou de... Bon, c'est pas grave. Vous allez voir qu'après, tout est possible. 10 ans plus tard, tu vas changer, en fin de compte, complètement ta vie. Et on va l'écouter, ça, après une page de publicité et surtout une page musicale que tu as choisie de circonstance. On va écouter Imagine de John Lennon. Petite page de pub.
Vous êtes sur Radio Shalom.
Que ce soit pour votre mutuelle santé, votre auto, votre assurance commerce, votre assurance professionnelle, votre décennale ou tout simplement pour votre habitation, l'assurance comparateur depuis plus de 19 ans vous propose les meilleurs contrats adaptés à votre situation et en plus aux meilleurs tarifs. Sans perdre de temps sur des sites internet à chercher le moins cher, appelez-nous tout simplement et nous trouverons pour vous la meilleure offre. Vous nous téléphonez au 01 46 50 59 22 28 01 46 59 22 28. Toutes nos adresses sur www.l'assurance.fr. L'assurance s'écrit avec un S à la fin. À tout de suite pour de sacrées économies.
Le KKL, depuis 120 ans, une histoire extraordinaire.
Une aventure qui mêle écologie, réalisation d'infrastructures et plantation d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations.
Le KKL, c'est la réalisation du rêve de ceux qui ont cru en ce miracle que l'on appelle Israël.
Mais par-dessus tout, le KKL, c'est un amour indéfectible et un engagement pour la terre et le peuple d'Israël.
Faites partie de cette aventure en soutenant le KKL de France.
Faites votre don sur KKL.fr.
Retrouvez toute la programmation du Mémorial de la Shoah sur www.mémorialdelashoah.org. Le Mémorial de la Shoah, c'est 17 rue Geoffroy Lagny à Paris dans le 4e. Le Mémorial de la Shoah, un rempart contre l'intolérance et la haine de l'autre.
Vous êtes sur Radio Shalom.
Alors nous voilà de nouveau avec Valérie, mon invitée d'aujourd'hui, que j'ai plaisir à rencontrer. Valérie, écoute, ton histoire est incroyable. Donc, tu nous racontais que tu avais eu un accident domestique. Tu étais en train de faire des frites. La bassine de frites, enfin la friteuse, s'est renversée sur tes jambes, notamment sur une jambe. Et suite à tout un tas d'opérations, eh bien, finalement, tu as attrapé un staphylocoque doré et derrière, tu as été amputée. Donc, tu arrives à la maison. Je voudrais savoir comment tu fais, puisque en fait, tu n'as pas de prothèse à ce moment-là. Comment tu fais pour marcher?
Alors non, j'ai pas de prothèse, puisque j'ai fait le choix de d'abord rentrer chez moi et pas de faire de rééducation tout de suite. Et du coup, je rentre chez moi avec une paire de cannes anglaises et je me déplace avec les cannes anglaises. Alors au début, un petit peu compliqué, parce que il y avait ces 18 kilos de moins, donc il a fallu que je me refasse une santé.
Tu t'es mis à la muscu là, à ce moment-là?
Alors d'abord, je me suis mis au tennis fauteuil.
D'accord.
Et après ça, j'ai commencé la musculation et après, je faisais des randonnées le week-end.
D'accord, donc tu t'es mis quand même sans prothèse au sport.
Oui.
Mais pourquoi?
parce que ben, j'ai toujours fait du sport dans ma vie, depuis toujours.
Tu étais une sportive?
J'étais sportive avant, et bon, après il y a eu la période où j'ai eu les enfants, donc là je faisais beaucoup, beaucoup moins de sport, parce que ben, les enfants c'est du sport.
Oui, oui.
et puis après, ben, là j'avais plus de temps, vu que les enfants étaient quand même plus grands, et j'ai pu me remettre, et puis là c'était important, puisque j'avais pas fait, je me retrouve quand même handicapée. Mmh. Et je me dis, là, il faut que je me refasse une santé, et ça va être plus compliqué qu'une personne valide. Et du coup, ouais, je me suis mis au sport de suite, et aujourd'hui, je fais toujours du tennis fauteuil. Je fais de la muscu une partie de l'année, et je nage. Les randonnées, j'en fais plus.
D'accord. Bon, en tous les cas, tu fais déjà pas mal de sport, hein, quand même. J'aimerais savoir, à un moment donné, tu as décidé de faire des compétitions. En tous les cas, une compétition. Et c'est là, tu m'as expliqué que c'est là que ça t'a motivé d'avoir une prothèse. C'est laquelle compétition ?
Alors, c'était une compétition qui se déroule aux Pays-Bas, en stand-up paddle.
D'accord.
Et c'est un sport que je ne connaissais pas. Enfin, j'avais vu, mais je n'avais jamais pratiqué. Et ce qui m'a intéressée, c'est que ça durait 5 jours et c'était 220 kilomètres. Donc, ça faisait à peu près un marathon par jour.
En fait, tu as commencé à te challenger.
Oui.
Parce qu'auparavant, tu faisais déjà du sport.
Oui.
Donc, tu étais en bonne condition physique 10 ans plus tard. Et là, oui. Tu te dis, tiens, je vais me faire ce challenge. Bon, c'est pas tout le monde qui ferait ça, même avec deux jambes. 220 kilomètres de paddle, c'est quand même quelque chose. Moi, j'en fais du paddle, donc je sais que c'est intense. Hein. Tu commences par monter sur le paddle avec une jambe.
Oui, parce que ben, jusque-là, je n'ai pas de prothèse. Oui. Il faut bien que j'apprenne le paddle pour aller faire cette compétition. Mm-hmm. Et du coup, j'ai pas du tout pensé à une prothèse. J'ai dit, je vais m'y mettre. Alors, pagayer du côté droit, il n'y avait pas de souci, puisque j'avais ma jambe valide d'appui. Mais côté gauche, vu que je n'avais plus de jambes, je n'avais aucun appui. Et là, je tombais à l'eau. Alors, je me laissais porter sur l'eau, tout simplement.
Ce qui fait que ça a été... Là, pour toi, la motivation pour avoir une prothèse.
Et oui, obligée pour faire les 220 kilomètres.
Voilà. Mais est-ce que tu les as fait, ces 220 kilomètres, finalement ?
Alors, c'était en septembre 2015, et non, je n'ai pas réussi. En fait, il y a eu un jour où je n'ai pas pu sortir sur l'eau, parce que j'avais le corps...
Trop fatigué.
Ah oui, très fatigué, mal de partout, voilà. Et du coup, j'ai fait 180 kilomètres.
Ce qui est énorme. Mais tu m'as dit qu'à ce moment-là, tu n'étais pas contente de toi.
Non, pas du tout.
Et tu t'es rechallengée pour l'année suivante.
C'est ça. Donc, en septembre 2016, je suis partie, peut-être pas mieux préparée, mais j'ai fait toute ma course.
Bravo, bravo.
Merci.
Toutes mes félicitations. À partir de là, tu vas enchaîner les compétitions, mais cette fois-ci, tu vas te challenger pour toi-même, mais tu vas faire des compétitions surtout pour des associations. Et la première que tu choisis, c'est l'association, si je comprends bien, si je me rappelle bien, ELA, qui était une association parrainée par Zidane.
Alors, c'est parrainé par Zidane depuis de nombreuses années.
Et d'ailleurs, tu m'as dit que c'est parce que tu voulais le rencontrer au départ, petite coquine.
Alors oui, je me suis dit, il doit être là à l'arrivée. Et donc, j'ai monté 25 étages et il n'était pas là. Donc, je suis redescendue et j'ai retenté le coup, mais il n'était toujours pas là.
Valérie, pas folle la guêpe. Hein. En tous les cas, là, à partir de ce moment-là, tu vas monter des marches, ça va être son truc.
Oui.
Puisque tu vas décider... de monter la tour Montparnasse qui a 60 étages, c'est ça ?
C'est ça, 1000 marches.
1000 marches, avec tes béquilles et ta prothèse.
Alors non, sans prothèse.
Sans prothèse.
Toutes mes courses d'escalier se déroulent sans prothèse, à part la dernière que je viens de faire, où j'ai fait moitié-moitié.
D'accord, et donc cette fois-ci, c'était pour quelle association ?
C'est pour la Fondation Gustave Roussy, pour la recherche des cancers pédiatriques.
Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ton histoire, c'est qu'au lieu d'être sur ton petit nombril, entre guillemets, à te morfondre sur ta situation, et tu aurais eu le droit de le faire, eh bien pas du tout. Toi, tu es dans le don, tu es dans le... Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien que nos auditeurs retiennent pour eux, si c'est votre cas, si vous êtes dans ce cas de maladie ou d'handicap, ou le transmettre à des personnes qui sont dans ce cas-là. Parce que donner aux autres, même si on n'a pas beaucoup, eh bien, ça va toujours nous motiver pour notre quotidien. Et c'est ce que tu as fait, toi.
Oui, Oui, parce que ça motive plus s'il y a une bonne cause derrière.
Oui.
Et puis, c'est toujours pour des enfants aussi.
En plus, tu aimes les enfants.
Voilà, donc ça c'est très important.
Alors après, la Tour Montparnasse,
oui.
C'est pas assez haut pour toi. Tu décides d'aller faire la Tour Eiffel.
Voilà, j'ai fait la verticale de la Tour Eiffel quelques mois après la Tour de Montparnasse.
C'est combien de marches ?
1665.
Et en plus, c'est des marches, tu m'as expliqué, glissantes.
Glissantes, métalliques, vraiment désagréables à monter. Voilà. Et puis la dernière partie entre le deuxième et le troisième étage, la partie qu'on ne peut jamais faire en tant que touriste, c'est qu'un escalier. Donc, il n'y a plus de palier là. C'est vraiment beaucoup de marches. Voilà. Et la dernière partie en spirale. Donc, c'était vraiment compliqué et tout métallique.
Mais écoute, tu as fait ce challenge formidable. Est-ce que tu étais contente de toi à la fin ?
Alors, contente de moi, non, je ne suis jamais contente de moi.
Ah.
Mais c'est vrai que la tour Eiffel, c'était le plus beau challenge que j'ai fait.
D'accord. Par la suite, tu ne t'es pas arrêtée là, puisque tu as refait la tour Montparnasse et par deux fois, ce qui équivalait à 10 000 marches, si
non, 2000.
À 2000 marches, oui. Pardon, 2000 marches. Et ensuite, tu as fait les 10 000 marches,
oui.
Mais sur un pont. Hein?
C'est ça, oui.
C'est-à-dire que tu as marché pendant 8h30, c'est ça ?
Pendant 8h30, j'ai fait des montées, descentes d'escaliers.
Et là encore, pour une association ?
Toujours pour la Fondation Gustave Roussy.
Très bien. Tout cela, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, personnellement ? Tous ces challenges, tous ces objectifs ?
Alors à moi, ben c'est toujours ce défi d'aller au-delà, toujours un petit peu plus. Bon là, plus de 10 000 marches, ça va jamais arriver, hein. Voilà, qu'on soit bien d'accord là, oui. c'est bon. mais ça, voilà, ça apporte un défi, ça apporte beaucoup de fatigue, ça c'est sûr.
Oui.
Mais surtout, je le fais pour les enfants, voilà, pour que ça rapporte quelque chose, voilà.
Pour
recevoir des dons, voilà.
Tu as compris que tu pouvais faire quelque chose qui sert à récupérer de l'argent,
oui.
Pour sauver des enfants.
Oui.
Et du coup, ça t'a motivé énormément.
Oui.
Et c'est vrai que on pourrait se dire n'importe qui à l'heure actuelle. Si, par exemple, dans sa vie, il peut faire un challenge quel qu'il soit, ça peut être quelque chose de très petit même, mais si ça lui permet de rapporter de l'argent pour une association, ça doit être extrêmement... ça doit rendre vraiment heureux, je pense.
Oui, bien sûr. Après, même si c'est juste une personne qui essaye de se surpasser que pour elle-même, c'est bien aussi, parce que ben quand on a un handicap, souvent on pense que notre vie elle est terminée,
oui.
Et c'est vrai que de rester sur un canapé devant la télé, c'est pas une solution pour personne,
bien sûr.
Et il faut oser, parce que il faut oser, il faut sortir, il faut se faire plaisir. Et puis pourquoi pas, on se sent bien de faire du sport, et le sport ça sauve toujours une personne.
Ce sont des bonnes hormones, en l'occurrence des endorphines, qui vont booster notre organisme. Et tu sais, ça me fait penser aussi, récemment, il y a eu le marathon à New York, et il y a une jeune fille qui était trisomique et qui est allée jusqu'au bout de ce marathon, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Elle a réussi à faire ça. Et tu vois, moi, j'ai un fils qui est handicapé mental, et il a fait une course qui a duré 5 kilomètres, c'est pas beaucoup, mais il est heureux jusque là encore maintenant. Il m'en parle. Et en fait, à chaque fois que je suis avec lui, je lui organise des petites compétitions. On se challenge mutuellement pour monter des poids, par exemple, etc. Et à chaque fois, ça lui apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction. Donc, ton exemple peut motiver énormément de personnes et énormément de nos auditeurs.
Oui, et puis il n'y a pas de petits challenges, de toute façon. Il n'y a pas de petits défis. C'est ce que nous, on peut faire. Voilà. Après, moi, j'ai voulu aller au-delà parce que j'avais cet esprit... de compétition avec moi-même, pas avec une autre personne.
Oui.
Mais après, même si j'étais restée sur le fait de marcher 3 kilomètres par jour, c'est pas grave. C'est toujours 3 kilomètres.
Oui.
Donc, il y a peut-être des personnes qui veulent pas aller au-delà de ça, mais au moins, ils font leurs 3 kilomètres par jour, et c'est tout à fait bien.
Oui. Bah écoute, en tous les cas, merci beaucoup pour ton exemple et pour ton histoire qui est tellement inspirante et qui va, je suis sûre, donner du baume au cœur à tous nos auditeurs. Je te remercie. La semaine prochaine, on aura une nouvelle histoire à raconter. Je vous encourage à être à notre écoute, hein, à venir à écouter tous les mardis à 16h30. La vie commence à 45 ans. Et merci encore pour votre fidélité. Au revoir.
Merci.
Vous êtes sur Radio Shalom.
Vous êtes sur Radio Shalom.
Radio Shalom.
שנינו במקום אחר. את התקדמת מאז ומסתבר, אני קצת מאחר. זה נראה לי מפגר. כשאת בנוף שלי, אני הופך למישהו אחר. דווקא כשאנחנו לא יחד. המבט שלך פתאום דוקר. משהו בך פתאום עושה בי רעד. כשאת מלטפת מישהו אחר. לא. נגמר עד שאת איתו ליד כולם עוברת גם כשאנחנו לא יחד המבט שלך פתאום דוקר משהו בך פתאום עושה מירד שאת מלטפת מישהו אחר לא
Radio Shalom sur le 94.8 FM.
94.8 FM.
Attention, événement.
L'association Choisir l'école juive présente la 6e édition du Salon des écoles juives. Dimanche 19 janvier, préparez sereinement la prochaine rentrée scolaire. Pendant une journée, les représentants de toutes les écoles juives de France et filières post-bac vous accueilleront sur leur stand à l'hôtel du collectionneur. Venez échanger avec les équipes pédagogiques, bénéficier d'un entretien individuel d'orientation offert et découvrir les programmes d'études en Israël et à l'international. Le Salon des écoles juives, dimanche 19 janvier dès 10h, dans les salons de l'hôtel du collectionneur Paris 8e. Entrée gratuite, animation enfant toute la journée. Restauration cachère et services de sécurité sur place. Alors, venez nombreux.
Alors qu'on observe une flambée des actes antisémites qui affectent particulièrement les plus démunis, la Fondation Kazib Kojazor travaille sans relâche auprès des 30 000 personnes aidées quotidiennement. Destinez votre don aux milliers de familles en difficulté sociale, aux personnes en situation d'handicap, ainsi qu'aux survivants de la Shoah. Faites confiance à la plus importante fondation d'aide sociale juive de France. Adressez vos dons avant le 31 décembre et vous bénéficierez d'une déduction fiscale jusqu'à 75%. Fondation Kazib Kojazor. 01 49 23 71 40 01 49 23 71 40.